I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je pense qu'il y a un grand parti de qui a pardonné les défauts de mon père. Le fait d'être dans le siège de conducteur, tout de suite, tu te mets à la place de celui qui était le conducteur avant. Tu dis, ah, en fait, c'est pas facile. Et donc, j'ai quelques amis qui sont pas papa, et parfois je les entends se plaindre toujours de leurs parents. Et je me suis rendu compte que depuis que je suis papa, je me plains beaucoup moins sur mes parents.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
Bon, on est donc avec Sébastien Marx, salut.
Salut, ça va?
Oui, et toi?
Oui, re.
Re-bonjour, parce que c'est vrai que t'as été l'un de mes tout premiers invités à l'époque. Ouais. Je crois que t'es le 6e épisode d'Histoire de Daron, mm-hmm. On avait fait ça en 2017,
wow.
Où tu parlais de plein de choses et t'étais le premier papa avec une binationalité, une double culture, ouais. En fait, dans un couple, où tu parlais de la façon dont tu gérais le langage entre tes enfants, mm-hmm. Ou bah, ta fille à l'époque avait 5 ans et ton petit, il était encore petit pour le coup, il avait 2 ans. Tu vas, ouais, nous raconter un peu comment ça se passe, où tu racontais que tu lui parlais en anglais et ta femme lui parlait en français.
C'est toujours le cas.
Et c'est toujours le cas, ouais. Et aujourd'hui donc tes enfants, ils sont totalement fluent.
Oui, quasiment, oui. En fait, ma fille de 9 ans, là, elle est, ouais, complètement fluent, mais mon deuxième pareil, voire le troisième. Il a 3 ans, donc il est fluent en rien, en bébé.
Il est fluent, je pense, en bébé.
Ouais, non, mais il commence à vraiment bien s'exprimer. Et ma fille, elle va à New York toute seule.
Là, ce week-end, cet été, là en,
oui, dans 2 semaines.
OK.
Donc, on va la mettre dans un avion le 14 juillet, symbolique. Et elle va passer 2 semaines avec ses grands-parents.
Donc tu la mets dans, voilà, un avion, tes parents viennent la récupérer,
j'espère,
de l'autre côté.
Ouais, Inch'Allah.
Ce serait,
ouais,
bien. Bon, après, bon, on va voir, c'est la sélection naturelle. Hein, tu,
ouais,
vois,
ouais, voilà,
peut-être,
ouais,
tes parents viennent pas, et alors là, elle est obligée de se démerder.
De se démerder à New York.
Et elle devient survivor.
Ouais, ouais, justement.
On
elle
sait
va
pas.
Revenir plus forte. Donc, ouais, elle va passer 2 semaines là-bas, chez mes parents. Et bon, il y a mon frère qui est là-bas. Mm. Il habite pas avec mes parents. Ouais. Mais il est toujours à New York avec... Bon,
j'aurais pas jugé. Hein,
il a deux filles. Donc, ma fille a ses deux cousines là-bas aussi.
Elle va aller
aussi,
voir les cousines.
Aussi. Donc, elle est très excitée, mais aussi, bien sûr, un peu stressée de faire ce genre de voyage. Tout ça pour dire qu'elle se débrouille très bien en anglais.
Oui, c'est parce qu'en fait, tes parents, enfin, toute ta famille ne parle pas forcément bien français,
non,
voire pas du tout même.
Non, non, non.
Ah,
bon, très, très, très peu. Et c'est sûr qu'ils ne vont pas parler français avec ma fille. Parce que, bon, elle est très à l'aise en anglais. Elle regarde, bon, les trois, ils regardent les dessins animés, les films en anglais.
Mais tu racontais dans cet épisode, je mettrai,
ouais,
les liens.
Justement, je sais pas si je vais me répéter parce
non,
que
mais
je
c'est pas
me
grave.
Sais plus ce que j'ai dit.
Je mettrai le lien pour que les gens puissent aller le réécouter s'ils veulent ou l'écouter. Parce que tu disais plein de trucs intéressants. Tu parlais aussi de la circoncision de ton fiston où,
oui,
t'avais plein de prises de tête par rapport à ça. C'était hyper intéressant comme épisode. Et l'autre nouveauté, c'est que tu as également fait un troisième enfant.
Oui, notamment un troisième enfant qui a maintenant 3 ans. Donc, il est né en février 2019 Et c'est un super gars aussi. Hein. C'est tellement intéressant de voir le dynamique avec trois. C'est beaucoup de boulot, mais aussi juste parfois un jour il y a un qui est grognon et donc du coup ça déstabilise l'équilibre entre le trois. Donc du coup t'as une chance sur trois que ça foire, parce que s'il y a un sur trois qui est grognon, du coup ça peut déstabiliser le trio et même toute la famille.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi faire un troisième enfant?
C'était un questionnement, mais on est très content de l'avoir fait. Ouais. Mais en même temps, ça y est, ça suffit. Là, on est sûr qu'on arrête là. Mais moi, j'hésitais. Ma chérie était un peu plus enthousiaste, et c'était le bon timing aussi. C'était vraiment le bon timing. On s'est dit, ok, bon, là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Je pense aussi, ma femme, elle vient, je sais qu'elle vient d'une famille assez nombreuse. Elle était dans une famille avec 5 enfants. Donc, pour elle, c'était plus, dans sa tête, une famille, c'était ça. C'était minimum 3, quoi, tu vois. Là, elle est sûre que c'est pas plus que 3 non plus. Mais, je pense que ça a beaucoup influencé son point de vue de la famille. Ça se passait tellement bien, nous quatre, qu'on s'est dit, voilà, on fait une troisième, quoi. Et donc, sans regret, vraiment, c'était vraiment un bonheur, ce troisième aussi. Donc, et vraiment, ça ajoute bien sûr un côté tribu, d'un coup.
Oui, c'est en termes d'organisation, c'est plus la même chose. Hein.
Oui, et juste en pensée, juste vacances aussi. Par exemple, cet été, on va en Italie. Et il y a quelques mois, on dit, bon, on va prendre un vol, après on va louer une voiture sur place. On a regardé le prix des vols à 5 et une voiture assez grande pour 5 personnes. Et voilà, du coup, on prend une voiture depuis Paris.
Depuis Paris pour aller.
Ouais, donc c'est cher aussi et c'est pénible, mais en même temps, on économise énormément en prenant la voiture directement de Paris, quoi.
Ça y est, donc te voilà avec un break et...
Ouais. Ah ouais, ça y est, je suis le papa que je jurais jamais être, quoi.
C'est vrai à ce point-là?
Bon, non, j'exagère, mais oui, je me moquais. Je me souviens quand j'étais enfant aux États-Unis, oui, c'était un cliché, le station wagon, break, ou pire, le minivan. Ouais. Tu vois, ce genre de choses, c'était tellement... Oh, regarde les parents ringards, tu vois. On a l'impression que justement, ils baissent plus, tu vois. C'est juste que c'est notre catégorie de personnes, et voilà, j'y suis.
Hein. C'est le cas, tu baisses plus.
Ouais, non, heureusement, on a une vie sexuelle assez toujours présente.
Bravo.
Donc, c'est très bien. C'est pas évident, mais j'espère que mes enfants vont pas forcément écouter ce podcast tout de suite. Mais pour eux, hein, pour le dégoûtailleur, hein,
pour eux, hein.
C'est complètement pour eux. Donc voilà, donc tout se passe bien. Et aussi, on avait un coup de chance, parce qu'un troisième enfant implique aussi plus de place chez soi. Et donc, on avait aussi un coup de chance. On habitait déjà dans un appartement à Montreuil. On avait une occasion pour agrandir.
Montreuil qui est en banlieue parisienne, hein, pour les gens qui ne savent pas.
Oui, il y a des gens encore qui ne savent pas.
Oui, ils auront tout le reste de la France.
Ouais, c'est ça, je sais. On est tellement paris-centrique ici.
Pardon, désolé. Moi, j'essaie de ne pas faire ça, justement, tu vois. Ouais, c'est un vrai truc qui est compliqué à faire.
Il y a même peut-être des gens en dehors de la France qui nous écoutent.
Bien sûr.
Ça existe aussi.
Il y a plein d'expatriés, il y a plein de Québécois.
Des Québécois, des Suisses.
Il y a des francophones, voilà, ouais. C'est ça.
Et donc, on habite à Montreuil, qui est à l'est de Paris.
Merci.
Le Brooklyn de Paris,
ouais, c'est vrai.
Comme j'aime le dire. Et en fait, c'est très beau. On est vraiment les clichés des gens qui habitent à Montreuil, c'est-à-dire les gens qui habitaient avant à Paris, dans un milieu artistique, qui n'avaient pas le moyen pour avoir un appartement à Paris et procréer. Et donc, du coup,
ça.
Il faut quitter le périph. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on avait déjà un appartement à Montreuil et on a agrandi. Donc, on a une mini-maison même à Montreuil. Et donc, c'est grâce au fait qu'on avait bien investi dans un appartement qui a pris de la valeur assez rapidement, parce que Montreuil, justement, c'est un très bon endroit pour investir. Et donc, du coup, ça nous a donné assez pour acheter une mini maison.
D'accord.
Oui.
Et donc, tu es obligé de remonter sur scène pour pouvoir...
Ah oui, donc maintenant, il faut
faire des blagues.
Il faut que je sois très drôle, ouais.
T'as plus trop le choix.
Ouais. Et donc, c'est bizarre. Et je parlais avec un ami humoriste là-dessus. C'est de sentir que la vie de ma famille dépend de mes blagues à la con.
Bien sûr.
C'est très bizarre.
Ouais.
Les petites blagues que j'écris dans un petit carnet qui sont parfois très très cons, très bêtes, très enfantins. Et du coup, ça peut... Ouais, ça... notre économie dépend de ça, c'est bizarre, c'est un peu absurde.
Tu veux dire que c'est bizarre d'avoir un... Comment dire, d'avoir un revenu qui est basé sur un truc qui est a priori perçu comme enfantin, de faire des blagues.
Oui.
Alors que t'as une charge de famille, c'est ça?
C'est ça. Bien sûr, ça dépend quel type de blague on fait. Mm. Parce qu'il y a des humoristes qui font des blagues très intello, très politiques. Et là, on peut dire, ah, on comprend qui peut être père de famille. Et je sais pas si c'est mon cas. Je pense que j'ai ce genre de blagues, mais aussi d'autres blagues qui sont un peu juste de blagues qui me font rire, qui sont, que je sais. Qui sont un peu enfantins, mais enfantines, du coup. Mais voilà, donc effectivement, c'est un dynamique un peu bizarre. Bon, bien sûr, ma chérie, elle travaille aussi, donc c'est pas que sur mes épaules. Mais,
bien sûr.
Mais voilà, je sens cette pression un peu bizarre.
Ok. Est-ce que ta fille, qui a maintenant 10 ans, elle se rend compte, en fait, que son papa, son métier, c'est de faire des blagues et c'est de vivre de faire des blagues?
Oui. Ils savent, au moins les deux aînés, ils savent très bien. Déjà parce que, en fait, on a une vie de famille assez compliquée les soirs. Parce que moi, je joue en ce moment jeudi, vendredi, samedi. Ma femme, qui est prof de théâtre, elle donne des cours et les cours de théâtre, c'est le soir. Donc, du coup, elle n'est pas là les mardis et mercredis. Et les dimanches, souvent, j'anime mon plateau anglophone. Donc, en gros...
Il faut que tu fasses la promo de ton plateau. Hein,
ah oui, je vais faire la promo de mon plateau anglophone aussi.
Il n'y a, a pas beaucoup de plateaux anglophones à Paris.
Très peu. De plus en plus, mais ça reste quand même quelque chose assez... pour les élitistes, quoi, les anglophones. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a que le lundi soir, on est tous ensemble.
Ah ouais?
Oui, parce que donc, mardi, mercredi, c'est ma chérie qui n'est pas là. Je l'ai vendu samedi, parfois le dimanche... En fait, j'ai commencé à réduire ma présentation de mon plateau le dimanche parce que j'étais pas à la maison. Mm. Mes enfants oubliaient qui j'étais, quoi. Et donc, on avait que le lundi ensemble. Donc, du coup, j'ai commencé à lâcher le dimanche de temps en temps pour être là un peu plus, quoi. Donc, je me souviens pas pourquoi on parle de ça.
Parce que je te demandais si ta fille, elle se rendait compte que tu faisais des blagues.
Donc, oui, tout ça pour dire qu'elle et au moins le deuxième se rend compte très bien que je pars le soir pour faire des blagues. Et aussi parce que pendant le confinement, on a fait des vidéos ensemble avec ma famille. Donc pendant le confinement, j'avais quelques idées pour faire des vidéos avec eux. Et ils sont assez à l'aise devant la caméra, qu'ils étaient très partants. Et je me suis dit, bon, ok, faisons ça. Et donc on a fait au moins deux vidéos qui ont plutôt bien marché.
En famille,
avec donc ma femme qui est comédienne aussi, et les enfants qui étaient très contents d'être devant la caméra. Et du coup, le fait que leurs copains ont vu cette vidéo, ils voyaient que moi j'ai fait des vidéos en général aussi, ils savent que parfois je suis reconnu. Par exemple, on peut être dans un restaurant et quelqu'un peut venir... dire qu'il est fan de moi, choses comme ça. Et donc, du coup, bien sûr, ça, ils comprennent ce que je fais. Quoi.
Et elle en dit quoi, alors ta fille, par exemple, ton fiston?
Je pense qu'ils sont contents, ils sont fiers. Heureusement, ils ne savent pas les conneries que je raconte sur eux. Mais, mais non, je pense qu'ils sont fiers, ouais. En fait, parce que aussi, non seulement ça, c'était aussi leur... Il y a plusieurs maîtres et maîtresses à leur école qui regardent mes vidéos, et donc du coup ces gens-là, ces maîtres, ont dit à mes enfants qui regardent mes vidéos. Okay. Donc du coup, je pense qu'ils sont plutôt fiers de ce que je fais, sans savoir ce que je fais, encore une fois.
C'est ça.
Heureusement.
C'est que, tu vois, ça me fait un peu penser à... Alors, c'est toujours bizarre de le citer aujourd'hui, parce qu'il a eu des histoires, Louis C.K., où il s'est masturbé devant des meufs, etc., etc. Mais en fait, il a beaucoup, beaucoup creusé sa vie de papa. Mmh. Et j'ai l'impression que là, depuis quelques années, alors pour plein de raisons, mais il a arrêté de parler de ses filles, mais peut-être aussi, je me dis, parce qu'elles ont grandi. Mmh. Et t'as un peu aussi ce truc de te dire, ah bah zut, en fait, à un moment donné, peut-être que ça va être plus compliqué d'écrire des blagues sur elle.
Oui.
ou sur eux,
oui.
Alors qu'ils vont finir par grandir, quoi.
Oui, et en fait, je veux pas non plus qu'ils ont honte à un moment donné, par une blague ou par quelque chose que j'ai fait. Et donc, oui, effectivement, je pense que de toute façon, je vais un peu ralentir les blagues sur eux, même si c'est tellement une source d'inspiration.
Oh, mais tellement.
Mais au-delà de juste le côté drôle, mais juste le côté, ça fait tellement une grande partie de ma vie que c'est difficile à ne pas en parler. Et je me rends compte que régulièrement, quand j'écris une blague ou les idées pour des choses drôles viennent d'eux, naturellement. Comme avant, c'était un peu naturel que je parle du fait d'être un étranger, parce que ça faisait vraiment tellement partie de ma vie, bon, bien sûr, hein, toujours. Mais il y a une expression en anglais qui est « the elephant in the room », l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire, ça veut dire le truc tellement évident, mais qu'on ignore.
Ouais.
Et là, ce sera tellement bizarre de ne pas en parler.
Ouais.
C'est le truc le plus évident dans ma vie, quelque part, que c'est difficile à l'ignorer. Mais bien sûr, il y a plein de façons d'en parler. Je peux parler de ce que ça me fait à moi, sans forcément parler d'eux ou un
oui.
truc qu'ils ont dit ou un truc qu'ils ont fait. Mais aussi dans mes blagues, j'exagère, je dis pas forcément la vérité, c'est pas vraiment ce qu'ils ont dit vraiment, donc ça peut aussi soulager le côté trop vrai pour eux. Mais Louis C.K. est loin d'être le seul, il y a un autre Jim Gaffigan, il y a plein d'humoristes qui en parlent.
C'est vrai que moi j'ai en tête Louis C.K. qui a été l'un des tout premiers que je voyais, en tout cas aux US, etc. Vraiment en parler de façon crue et tu vois de
crue négative
et de se moquer lui aussi de son propre rôle de père, à quel
oui.
point il était nul et qu'il arrivait pas à faire, etc., etc.
Oui, et il osait quelque part dire à quel point c'était dur et dire que et il était un des premiers de dire ma fille c'est une garce, c'est un bitch quoi, et il dit dans des interviews que quand il a dit ça il a vu que ça choquait et donc du coup il est allé à fond mais parce que c'est tellement tabou de les dire. Mais en même temps c'est vrai, c'est-à-dire que parfois on peut trouver un enfant est un connard. Il dit bien sur scène pourquoi. Il dit écoute, si tout le monde aimerait quitter la maison, il y a un de tes amis qui refuse de mettre ses chaussures sans raison, tu dirais arrête d'être un connard, mais juste parce que c'est un enfant du coup tu dis ah non, il faut être patient. Donc oui, il le décortique bien, il décrit pourquoi. Mais oui, et ça fait du bien aux autres, au moins. Peut-être, du coup, je sais pas si ces filles ont souffert à cause de ça. Mais oui, en fait, ça fait du bien aux papas, aux autres papas, je pense, d'entendre un humoriste dire, putain, c'est dur. Il y a aussi une autre blague où il donne le doigt d'honneur sur le dos de sa fille. Il dit, s'il y a un parent qui n'a jamais donné un doigt d'honneur à son enfant, c'est pas un vrai parent. Mais c'est très drôle aussi.
Donc, tout un sketch où il envoie sa fille caresser un poney sauvage et en fait il se rend pas compte qu'en fait effectivement c'est un poney sauvage et le poney sauvage il va finir par mordre la gamine et là, je suis tellement un mauvais père.
Ouais.
Pour rester, regarde, le wild pony va faire un câlin au wild pony.
Ouais.
Bref.
Ah mais le nombre de fois je me suis retrouvé dans des situations où de l'extérieur, j'ai dit, ah oui, je suis ce genre de papa nul, pas responsable. Et justement, tu le vois pas forcément venir. C'est une mauvaise situation, une situation dangereuse. Mais parfois, oui, j'ai eu de regards. Bon, maintenant, ça va faire 10 ans que je suis papa. J'ai eu plein de regards méchants, notamment de mamans ou des femmes qui me regardent en disant t'es pas responsable quoi.
T'as un exemple?
Oui, où juste on allait traverser la rue et mon fils, mon troisième là qui est en 13e, il allait vite et moi je connais mes réflexes, je l'ai arrêté avant mais c'était un peu pas loin du bord.
Ouais.
Et la dame a regardé un peu choquée, elle était stressée, elle allait aller pour arrêter mon fils. Et moi, je sais que je gère, tu vois, mais elle savait pas que c'était pour elle un peu trop près de la route, tu vois, ce genre de choses. Mais effectivement, on est à quelques centimètres, quoi, tu vois, donc voilà, donc ce genre de choses, ouais.
Tu parles, bon, bien sûr, tu parles beaucoup de paternité dans ton sketch,
oui.
Et tu parles de ton rôle de père et tout, et tu dis notamment à un moment donné, la barre des pères est tellement basse qu'en fait on peut faire tout et n'importe quoi. J'aimerais bien t'en faire parler.
Oui, en fait c'est injuste, je trouve, qu'il y avait tellement de papas nullissimes pendant des générations que ce qu'on attend d'un père est tellement bas. Bien sûr, c'est en train d'évoluer. Et je pense que je l'ai dit dans le podcast il y a 5 ans avec toi, mais que je trouve entre la génération de nos parents et la nôtre, il y a énormément de changements. Je pense presque plus que ce qui va être entre notre génération et
sans aucun doute
celle de nos enfants. Mais on ne sait pas, il y a plein de choses qui vont changer aussi, peut-être... Tout le débat...
Le rapport au genre, tu vois, je crois que ça va être beaucoup plus intégré.
Justement, je pense que ça sera le plus grand changement d'ici là. Mais je vois vraiment la différence entre la génération de mes parents et la mienne. Et que, bon, tout ça pour dire qu'il y avait tellement de pères, entre guillemets, nuls. Mais bien sûr, c'est pas qu'ils étaient nuls. Leur rôle était autre. Leur rôle était plus de gagner l'argent, de travailler, assurer le côté financier du foyer, que on n'a pas besoin de faire grand chose aujourd'hui pour qu'on ait vu comme un papa exceptionnel. Mais c'est toujours là, le sexisme est toujours là, hein. Par exemple, plusieurs fois quand ma chérie elle sort, il y a plein de gens qui disent mais qui garde les enfants? Elle dit mais Seb garde les enfants. Tandis que personne me demande quand je suis dehors qui garde les enfants. C'est évident que c'est ma femme. Tu vois, donc ce genre de sexisme subtil. Et donc oui, effectivement, je pense que la barre était tellement basse pendant grâce au papa nullissime. Et que oui, je pense qu'un bon père est juste un père qui est présent, quoi, aujourd'hui. Et je sais pas si toi tu penses pareil, mais dans le sens qu'on est pas, on peut faire beaucoup moins qu'une femme et on est vu comme un champion.
Bien sûr. Et c'est un vrai drame.
Ouais.
Parce que, et surtout par les autres femmes.
Mm.
Et ça, c'est terrible, je trouve. C'est
que
c'est vraiment... c'est les autres femmes qui te filent des... Et en fait, je comprends pourquoi, parce qu'encore une fois, comme tu dis, vu la situation de nos parents, etc., forcément. Mais j'ai l'impression que pas mal de meufs, dès que tu mets un peu la main à la pâte, elles vont venir te dire « Waouh, mais toi, t'es un papa !» Alors que tu vois, bon, non.
Ouais.
Mais ça incite pas les gars à se sortir les doigts, en plus. Ouais. Hein.
Bon, en fait, bon, le grand exemple, c'est que, et c'est vrai ce que j'ai dit sur scène, mon père m'a jamais changé une couche quand j'étais petit. C'était ma mère.
Ouais.
Mais de croire que mon père, pendant 3 ans de couche, il n'a jamais changé une couche, c'est impensable pour moi. Je suis à la fois outré et jaloux. C'était comment il a réussi à éviter cette tâche pendant 3 ans. Ah, c'est incroyable. Et du coup, le fait que moi je change, je dirais 40% des couches, je suis vu comme un héros, quoi.
Mmh. T'es un peu jaloux quand même de...
Ouais,
en petit... plus, je comprends, hein, tu vois, il y a vraiment un truc de comment ça. En fait, pour moi, ce qui entraîne la jalousie, je vais te dire, c'est un peu ce truc de c'est passé tellement vite, tellement fort d'un coup d'un seul qu'il n'y a pas eu de 0 à 100, quoi, tu vois.
Ouais, ouais. Non, je sais pas si je dis ça un peu en blaguant le côté jaloux, mais bien sûr, mais bien évident.
Oui.
Qui veut changer de couche? Personne ne veut changer de couche. Mais en même temps, je suis fier d'être plus présent, présent d'une autre façon pour mes enfants, une façon que mon père n'était pas. Et je suis en train de décrire mon père comme vraiment pas présent. Il était assez présent, mais ailleurs.
Il n'était pas dans le care.
Ouais, c'est ça. Mm. Il était plus dans l'éducation, dans la culture. Je me souviens pas si j'ai raconté ça il y a 5 ans, mais mon père était très fort à nous emmener, mon frère et moi, on habitait 30 minutes de Manhattan. Pendant le week-end, on est allé ensemble à Manhattan pour regarder une pièce ou un concert de musique classique ou un musée. Donc la culture venait de lui. Mm. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Et encore une fois, dire qu'un père assure les finances, c'est pas rien non plus. En fait, au contraire, maintenant que je grandis, Je me souviens quand j'étais ado, c'était oui, mon père a juste assuré les finances. Maintenant, à mon âge, je dis oh putain, mais il a assuré les finances, quoi. C'est énorme, tu vois.
Ouais.
Maintenant, j'ai 42 ans et je vois à quel point c'est pas évident de donner cette, ce côté aisé à ses enfants. C'est énorme, quoi.
Et puis de réussir à le faire dans le temps, tu vois, c'est-à-dire réussir à monter une carrière, etc., etc., quoi.
Oui, complètement.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En fait, ouais, si, il y a un truc dont je voulais te par rapport aux couches. Mmh. Moi, tu vois, typiquement, je crois que, et je dis ça parce qu'en fait, il y a des futurs papas aussi qui écoutent, tu vois.
Ouais.
Et moi, là.
Fuis.
Par toi. Non, mais en plus, j'ai découvert un truc, c'est que moi, à la base, c'était vraiment un truc que j'avais pas du tout envie de faire.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce truc de care, mais bon, on n'en parlait pas à l'époque parce que mes filles sont un peu plus grandes. Mais d'avoir un moment en tête à tête avec ton enfant, surtout quand t'as une maman qui allait, etc. Et en fait, pas vraiment de moments en tête à tête. Moi, j'ai vraiment de très très bons souvenirs de. Mmh. En fait, c'est l'un des rares moments où ton môme, il va te regarder dans les yeux, ton bébé, il va te regarder dans les yeux, tu vas pouvoir le regarder dans les yeux aussi.
Oui.
Et tu vois, je me rends compte aujourd'hui, mais c'est peut-être la différence avec toi, c'est que moi, ça fait longtemps que je suis plus dans les couches, quoi. Toi,
ouais.
t'en sors tout juste.
Ouais, ouais. Ouais. En fait, le troisième est.
Oui, c'est
tout,
ça.
Ouais,
ça.
Tu joues avec. Donc, ouais, ouais.
Ah oui, il a toujours les couches, le petit. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que je le vois plus de la même façon. Je me dis, OK, c'était quand même des moments très chouettes.
Ouais.
Bon, voilà.
Ouais, non, mais je pense aussi, par exemple, un autre exemple, c'est les biberons.
Mm.
Ma chérie n'a pas allaité. Et donc, du coup, au début, c'était, oh, c'est chiant, je dois donner le biberon. Mais en même temps, je pense, avec le recul, je suis content. Je suis content que c'était une tâche plutôt partagée, que j'ai pu être là dans ce moment finalement assez intime avec mes enfants en tant que papa. Oui.
Alors, j'ai pris une note que j'arrive plus à comprendre. Parce que tu sais, je prends des notes pendant ton spectacle.
Oui.
Comment élever les enfants par rapport à sa femme qui a une attaque à son code génétique.
Ah oui, ça c'est par rapport aux conseils. En fait, ça c'est aussi une différence entre elle et moi, et je pense en général entre les femmes et les hommes, les mères et les pères, c'est que quand quelqu'un nous donne des conseils sur comment élever les enfants, moi je prends ça comme un conseil. Tandis que elle le prend comme une attaque à son code génétique, une attaque vraiment à sa personne, à sa façon d'être. Et j'ai vu ça plusieurs fois, c'est que quelqu'un qui me dit quelque chose, ah, tu devrais mettre un pull à ton fils, je dis, ah, d'accord, sûrement cette personne a raison, tandis que ma femme va dire, quoi? Tu mets en question ma maternité? Et voilà, je pense que c'est pas que nous, hein, je pense qu'il y a plein de,
ouais,
de femmes qui prennent encore plus une fierté, là-dessus, à un tel point qu'elles acceptent pas forcément un petit conseil, et surtout de ma mère. La blague,
ah,
c'est
oui,
ça.
C'était
la
ça
blague,
par rapport
c'était,
à ta mère.
C'était ça la blague. Ce que je raconte sur scène, c'est que quelqu'un nous dit que peut-être notre fils a froid, donc du coup, ma femme, elle pète un câble, et j'ai dit, ah, attention, c'est ma mère. Donc, bien sûr, en fait, ma mère s'est calmée aussi, parce qu'avec notre premier enfant, ma mère donnait quelques conseils. Elle était assez déçue par le fait que ma femme ne donnait pas le sein et tout ça. Et ma chérie était assez forte de renvoyer ma mère chier.
Et toi, c'était quoi ta position par rapport à ça?
Ma position était de...
Mettre la tête dans le seau.
En gros. En fait, au début, on parlait, mais assez rapidement, je me suis retrouvé dans une position bizarre, très macho, de dire « dans ton sein à mon fils » ou à la personne de ma fille. J'ai trouvé que c'était tellement bizarre comme demande que
t'avais
je me sentais...
envie que ta femme allait, pour le coup.
Je pense que c'était... Honnêtement, je pense pas que j'avais trop réfléchi à la question.
Ok.
En fait, ma chérie, toute sa famille, tous ses frères, n'ont pas été allaités pour toute sa famille. Et donc, du coup, pour elle, c'était normal de ne pas donner son sein. Et pour moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire moi et mon frère, ma mère nous a donné le sein, donc du coup, c'était évident qu'il fallait le faire. Donc c'est juste une question de, je pense, habitude. Ou, donc oui, j'avais une petite préférence pour qu'elle le fasse, mais après, deux disputes là-dessus, voilà, j'ai compris que c'était un territoire qu'il ne fallait pas y aller, et finalement, c'était son choix, quoi. C'était son choix, maintenant, on en parle avec l'IVG aux États-Unis et tout ça. Oui. C'est vraiment, je pense qu'il y a quelques territoires sur lesquels, quelques terrains, Où finalement c'est pas moi, c'est pas on peut en parler ce qu'on a fait. On avait la discussion, mais à la fin de la journée, voilà, c'est pas quelque chose que je vais insister là-dessus. Et finalement, mes trois enfants sont en pleine santé et toute sa famille, à ma femme, sont en pleine santé. Donc voilà, je vais pas insister là-dessus. Mais... Et effectivement. La différence, c'est que moi, j'ai pu participer à quelque chose qui était chouette.
Oui, t'as pu donner le biberon, quoi.
C'est ça.
Mais ma question, c'était plutôt sur comment t'as fait pour gérer les discordes entre ta mère et ta femme, tu vois. Parce que ça aussi, j'imagine, tu vois, il y a des jeunes parents qui se retrouvent là-dedans où t'es là, putain, comment je fais pour gérer ça?
Je pense qu'il faut vraiment marquer son territoire.
Ouais.
Assez rapidement. Et heureusement, ma chérie, elle est assez forte qu'elle a pu le faire assez tôt aussi, et moi aussi j'ai renvoyé ma mère chier un peu en disant voilà, c'est notre décision, c'est comme ça qu'on le fait, et ma mère aussi est assez intelligente là-dessus, que je me souviens pas combien de temps, combien de discussions il fallait avoir, mais assez rapidement elle a reculé.
Okay.
Sur ce genre de choses, même si bien sûr ça peut arriver qu'elle essaie de donner un conseil qui est mal pris. Encore une fois, souvent par ma chérie plus que par moi. Mais voilà, ça arrive. Mais je trouve que ma mère respecte pas mal. Mais aussi, c'est dans l'épreuve aussi. C'est-à-dire que ma mère a pu critiquer mon frère, sa façon d'élever ses deux filles. Mais avec le résultat maintenant, elle voit que mes deux nièces sont super. Mes trois enfants sont super. Donc du coup... finalement, les inquiétudes, parce que bien sûr, ça vient de l'inquiétude.
Bien sûr.
Donc, ma mère voyait un jeune couple de parents, donc forcément, elle s'est mise dans le rôle de celle qui savait. Et maintenant, vu que nos enfants, on a trois, et les trois sont bien, ils sont plus assez âgés maintenant, elle n'a rien à dire, quoi. Elle sait qu'elle n'a rien à dire. Que notre façon, bien sûr, c'est pas exactement pareil comme elle a fait. Ok, on n'est pas parfait, mais elle voit le résultat et donc du coup ça soulage son côté un peu stressé.
Et t'as l'impression que ta femme a du mal à prendre les conseils aussi, parce que c'est peut-être un truc où elle se dit bah en fait moi je suis maman, et que peut-être toi t'as moins ce truc-là de t'identifier à ton rôle de papa, ou t'es plutôt
entre nous deux.
Ouais.
Je veux dire, je sais pas. Je pense que juste elle a fait plus de recherches que moi.
Ouais.
Je me souviens que même avant notre premier enfant, elle se posait des questions beaucoup plus que moi. Elle se préparait beaucoup plus, même si on parle du prénom, si on parle d'allaiter ou pas, ce genre de questions que moi je posais quand l'enfant était là, tandis qu'elle se posait ces questions pendant des années avant. Donc je pense que ça joue. Ouais, aussi, on parlait de conseils en venant de ma mère, mais des conseils qui viennent de sa mère, elle accepte beaucoup plus facilement. Okay. Quand même. C'est pas non plus qu'elle est... Elle dit non à tout le monde, mais je pense que c'est normal que...
Il y a un peu le truc de la belle-mère.
Oui, notamment la belle-mère qui a ce rôle-là qui est particulier, quoi. Et donc, oui, peut-être elle pense qu'elle sait mieux que moi sur certaines choses, mais ça dépend. Quand moi j'ai des choses à dire, je m'assume, hein. On n'est pas d'accord sur plusieurs choses, et quand on n'est pas d'accord, je peux vraiment de dire, on essaie d'éviter de faire une dispute devant les enfants, on essaie de dire, ok, on va mettre un épingle, ouais, et on va en parler plus tard, pour éviter d'avoir ce sujet devant eux, parce que on veut éviter que nos enfants nous voient en train de disputer, surtout sur un sujet
qui les concerne.
Qui les concerne. Même si c'est un truc pas très important, comme avoir un bonbon ou pas, on va dire, ok, on va en parler plus tard. Et... Donc on essaie, mais on n'arrive pas forcément à chaque fois.
C'est ouais, dur, hein.
C'est dur.
Est-ce que tu as fait ou tu vas faire circoncire ton troisième fiston ?
On n'a pas fait.
Ok.
Et c'était un...
Donc, je rappelle pour les gens, mais ouais, on en a parlé dans le premier épisode, oui, où tu avais des questions, où avec le recul, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment... Waouh, ok, je l'ai fait parce que, bah, en gros, c'était la religion, la tradition, etc. etc.
La quoi. Tradition, elle est tradition pas seulement juive, mais aussi la tradition américaine.
Américaine.
C'est-à-dire que la plupart d'hommes aux États-Unis sont circoncis. Ouais. Et je ne sais même pas exactement à quel moment, je pense que c'est fait à l'hôpital, d'une façon beaucoup plus chirurgicale. Ouais. Je ne sais pas quand exactement c'est fait. Mais c'est pas religieux du tout. Ouais. La plupart des gens aux États-Unis, c'est pas religieux du tout. Mais je pense que c'est 80% de.
C'est énorme. Hein,
ouais, ouais. C'est énorme. Mm. Et à un tel point qu'on pense qu'un pénis non circoncis, c'est européen. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression que c'est.
Oui, il y a tout un épisode de Sex and the City justement sur le sujet où elle discute de putain le mec c'était un comment ça s'appelle les chiens avec plein de peau là tu sais les.
The pug? Non, c'est pas
non,
the pug.
C'est
ouais,
un,
ouais,
c'est
avec beaucoup de peau.
Je ne sais pas, mais
oui,
bon, les gens sauront. Bref.
Oui, 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 je vois les gens, mais c'est pas un pug.
Il y a toute une vanne sur, t'imagines pas, ce mec, c'est vraiment, en fait, il parle de lui comme si c'était un chien, juste parce qu'en fait, oui, il a un prépuce. Voilà,
oui, donc, pour te montrer à quel point, ouais, c'est pas courant aux États-Unis. Et donc, ouais, tout ça pour dire que, en fait, je l'ai pas fait pour le troisième, deuxième garçon que j'ai. Partiellement parce que c'était intense et finalement je me suis dit est-ce que c'était nécessaire, même si je suis content aujourd'hui de l'avoir fait pour mon fils. Et je sais que c'est pas populaire, plein de gens disent quoi, tu peux pas faire ça à tes fils, à peu importe lequel finalement, parce que il y a un qui est circoncis, l'autre qui n'est pas. Et je dis ça, mais peut-être on va finir par le circoncire parce que il y a tout un monde que je connaissais pas qui était le comment ça s'appelle comment ça s'appelle, c'est le terme.
Ah, le décalotage.
Décalotage.
Oui, oui.
Quelque chose, mais déjà le mot, je connaissais pas. Et c'est ce rituel. Moi, j'ai grandi aux États-Unis dans une communauté juive et je connaissais personne qui avait un pénis non circoncis. Et ouais, donc, cette idée-là me semble tellement étrange. Et donc maintenant...
Tu sais que moi, j'ai eu un vrai problème avec ça et qu'en fait, j'ai fini par finir mon décalotage à 14-15 ans dans le bain. C'était horrible, quoi.
Oui, mais justement, et apparemment, c'est très courant soit il faut le faire tout jeune...
À 5-6 ans, quoi.
5-6 ans, ouais, et il faut le faire faire, quoi. Ouais. Il faut avoir quelqu'un, soit le faire soi-même,
oui,
soit...
Il y a de la crème, tu vois, machin, mais bon, c'est terrible.
Oui, oui, et donc là je suis confronté à cet autre monde, ce monde européen apparemment, mais qui me stresse aussi. En fait, donc je me rends compte que je sais pas quoi faire. En fait, j'étais assez stressé par le processus de circoncision que en fait c'était ma chérie aussi. Elle était là avec moi et on quelque part. Même si on est content aujourd'hui, c'était tellement dur à voir un enfant de 2 semaines à pleurer autant. Et après, il y a les soins après. Donc, c'était tellement quelque chose fort et stressant. Et j'avais de regrets sur le moment. Parce que, bien sûr, tu as de regrets. Tu vois un bébé, ton bébé, que tu jures à protéger. Tu le mets dans ces circonstances. Et donc, quelque part, un peu par... juste d'éviter le sujet, j'ai pas fait avec le troisième, mais en même temps là je suis au moment où il faut le décaloter. Le pédiatre commence à dire ah ce serait bien de le faire et j'essaie de faire rapidement et j'ai dit à lui de le faire mais il veut pas. Donc voilà, je sais pas quoi faire et donc en même temps il a 3 ans passés. Circoncire à ce moment-là, est-ce que ça va être pire? La bite est pas drôle non plus, hein, donc ça ne veut quoi dire. Hein. Peu importe le choix, mais oui, après, je suis toujours un peu stressé de savoir ce qu'il faut dire à mon troisième quand il va me poser la question pourquoi je ne suis pas circoncis. Mais je ne sais pas si le problème va venir de lui ou le deuxième qui va dire pourquoi je suis circoncis. Mais je pense que ça sera plus facile à justifier.
Ce sera plus simple pour lui parce qu'en fait, il va te voir toi, il va se dire, ok, je suis comme papa.
Je suis comme papa. Mais en même temps, le troisième va dire, oh, je suis pas comme mon frère ou papa, mais je suis comme tous mes copains. Je sais pas à quel point il va voir la bite de ses copains, mais.
Ouais, s'il fait du sport, c'est voilà. Très possible.
Ouais. Donc, mais je pense que si je suis honnête avec eux, tout simplement, de dire, voilà, j'étais présent pour la circoncision de mon premier, ça m'a fait un effet, donc je me suis dit que j'allais pas forcément envie de le répéter. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est la vérité. Après, oui, peut-être d'ici un an, on serait obligé de le circoncire. Il y a plein de gens, justement, qui ont des problèmes avec le décalotage, et donc, du coup, ils se font un...
Ouais, tu peux avoir une infection, ce qu'on appelle une phimosis, c'est tout, tu vois.
Ouais. Et donc, du coup, parce que, selon mon pédiatre, elle pensait que c'était mieux de le faire.
Mon pédiatre.
Oh, oui, voilà. Wow, elle était la pédiatre de nos trois enfants, oui. Donc c'est mon pédiatre quasiment.
C'est mon pédiatre.
Donc voilà, elle conseillait de le faire aussi, donc... voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me pèse, le fait qu'ils sont pas pareils. Et je crains le moment où ça va être un sujet. Mais je pense que oui, il faut juste répondre un peu honnêtement et voir ce qui... Et je pense lui dire au troisième, s'il veut être circoncis, je peux dire, ok, on peut le faire. On peut le faire. Voilà.
À 14 ans, putain.
Ou même s'il commence à me poser la question à 5-6 ans, on peut dire, ok, bon, ça va faire mal, mais on va te soigner. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je connais pas la bonne réponse parce que tu fais une tête, mais en même temps, apparemment, si t'as du mal avec ça à 13-14 ans parce que tu t'es pas
fait. C'était horrible.
C'est douloureux aussi. Donc,
c'était ultra. J'ai vraiment un souvenir pénible. Et apparemment, aujourd'hui, il y a des crèmes qui sont vraiment super cool.
Oui.
Que tu peux peut-être demander d'ailleurs à la pédiatre, hein, si tu veux. Mais à l'époque, moi, quand j'avais 14 ans, il y a 30 piges, ça n'existait pas, quoi. Tu vois, donc j'avais une lotion nulle à mettre dans le bain. Enfin, moi, c'était. Je me suis vraiment arraché la teub, quoi.
Ouais, ouais.
C'était débile.
Je pense que justement, c'est une rite de passage quasiment, tu vois. C'est soit tu te fais enlever avant, soit tu dois passer par ça.
Putain.
Et moi, justement, c'est un monde que je connais pas, effectivement.
Tu vois, je me dis à chaque fois, c'est pas des trucs auxquels on pense avant de faire des enfants, tu vois, de finir par avoir des problèmes avec la bite de tes garçons, quoi.
Ouais, je me suis rendu compte que ces questionnements, je pensais pas forcément en avoir. Et voilà, j'y suis, t'es forcé forcément à poser la question parce que peu importe ce que tu fais, c'est un choix. C'est soit tu le fais, c'est un choix, si tu le fais pas, c'est toujours aussi un choix. Donc, voilà, j'ai pris les deux chemins et pour l'instant, et effectivement, je trouve c'est un peu bizarre, mais j'ai trouvé aussi l'argument de le faire juste parce que son frère est comme ça, était aussi nul si j'avais de regrets. Je sais pas. Je pense qu'aussi, je suis quelqu'un qui est très influençable sur certaines choses, et je pense là, justement, j'avais pas envie de le refaire. Et j'ai repoussé le moment, et voilà, 3 ans plus tard, j'ai continué à repousser.
Enfin, de ce que j'entendais dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, ça avait été un vrai traumatisme pour toi et que tu avais vraiment très très mal vécu le truc. Donc je peux comprendre que quand tu te retrouves face à une nouvelle situation, tu préfères te dire, en fait, peut-être parfois qu'une non-décision est une décision, quoi. Tu vois.
En fait, j'étais assez con pour regarder, d'avoir regardé. Je pense que je l'ai dit dans
le podcast. Ah oui, oh là là, oui, c'est vrai.
Et il y a même une blague entre juifs, c'était qu'il faut jamais regarder. Et je pense que j'étais curieux je suis curieux, mais j'avais aussi mon garçon dans mes bras, quoi, tu vois, donc forcément.
Oui,
t'as
du mal à
ne pas regarder.
À regarder, quoi.
Et, effectivement, ça.
Est-ce que t'as regardé ta femme en train d'accoucher de face ou pas?
Pas de face complètement, mais oui, j'ai vu pas mal. Et
mais t'es un aventurier, alors.
Je pense que justement, je suis quelqu'un qui est curieux et qui veut pas se cacher quelque part. Et j'étais pas non plus face à face avec ma femme, mais bon, j'ai regardé un peu, mais ma chérie n'était pas trop, elle m'a dit, ok, tu peux, tu vois, elle était pas non plus, trop timide là-dessus, donc si elle m'a dit non, je veux surtout pas, j'aurais pas fait, mais.
Non, mais je crois que, tu vois, par exemple, ma femme m'aurait laissé faire, mais franchement, je crois que je voulais pas, parce que pour moi, il y avait un vrai truc de, bah, je veux aussi que ça reste un. Tu vois que son vagin reste un truc un peu sexualisé, tu vois.
Non, j'ai regardé au moment où on voyait la tête, tu vois. C'était vraiment vers la fin aussi. Parce que je pense que j'étais juste trop fasciné par ce moment. Et ces moments de voir mon enfant sortir, c'est un moment tellement bizarre et tellement. Divin, je suis pas pratiquant, mais juste de réfléchir, de voir la vie arriver comme ça, c'est incroyable, c'est magique, c'est majestueux, c'est dans tout le liquide qu'il y a, c'est magique, c'est incroyable, c'est tellement fort que je pense que j'avais envie de voir ce que c'est le premier moment de vie. En dehors du corps, c'est vraiment bizarre. Et ces images-là vont rester à vie pour moi. Ouais. Et c'était intense. Ouais.
On n'a pas parlé, mais comment s'est passé l'arrivée du troisième, l'accouchement du troisième?
Ah, j'allais dire très bien, mais en fait, il y avait quand même une petite complication à la maternité parce qu'il y avait une poche de liquide qui empêchait le troisième à sortir. Donc normalement, tu dis deuxième, troisième, c'est fastoche. Et normalement, c'était censé être plutôt facile. Mais en fait, il y avait une espèce de poche de liquide amniotique qui empêchait mon fils à sortir. Et en fait, le problème, c'est que les sages-femmes pensaient que c'était sa tête. C'était tellement dur qu'elles pensaient. Et donc, en fait, l'accouchement a duré 24 heures, qui est très bizarre. Et pour un troisième.
Ouais.
Mais parce qu'en fait, il y avait des sages-femmes qui disaient ouais, il n'avance pas, on touche, on sent la tête. Et après, il y avait un changement de sage-femme. Il y a un autre qui est arrivé, elle dit mais c'est pas sa tête du tout, en fait. C'est une poche d'eau. Et donc, elle a pris une espèce de.
Aiguille.
Donc là, j'avais une crise cardiaque quand tu vois la sage-femme sortir. Mais du coup, elle a percé la poche, et voilà, elle est arrivée très facilement après ça. Donc tout ça pour dire que, heureusement, il y avait cette deuxième ou troisième sage-femme, et finalement, il n'y avait pas de complications, mais oui, on commençait à frotter avec le danger, là, si ça traînait encore plus que ça. Donc, mais sinon, à part ça, il est né de bonne santé, etc.
Ok.
Ouais, donc ça c'est plutôt cool.
Tu parles de racisme aussi par rapport à Violette.
Ah
dans,
oui.
Dans le spectacle. Où c'est ça aussi, je trouve, c'est qu'à un moment donné, en fait, tes enfants grandissent et finissent aussi par te renvoyer leur vision de la société ou les visions des autres de la société. C'est
oui, terrible. En fait, je dis l'angle avec ces blagues-là, c'est vraiment que les enfants disent des conneries, quoi. Ils disent des choses. En fait, notamment mon aînée, elle s'exprime très bien, mais elle ne sait pas ce qu'il faut dire socialement parlant, qui est normal. Et maintenant, mon fils qui a bientôt 7 ans, il est dans le même panier, là. C'est le même. Et donc oui, dans l'histoire de mes enfants, ils ont pu dire plein de conneries. Ou ce que je raconte sur scène est vrai. À un moment donné, on était dans le métro, il y avait un Asiatique, et ma fille a dit « Regarde, c'est un Chinois », elle a fait « Ching Chang Chong », tu vois, parce que je sais pas
terrible.
Où elle a entendu ça. Ouais. Peut-être son grand-père, je sais pas, mais sûrement à l'école.
Coucou, papy.
Va savoir, ou ses cousins, va savoir, ouais. Quoi.
Bon, puis dans n'importe quel dessin animé potentiel.
Ouais, oui, un dessin animé qui est un peu daté,
oui,
voilà, on peut l'entendre, mais à mon avis, c'était plutôt à l'école.
Un sketch de Michel Leb, peut-être.
Ah, voilà. Oui, ou malheureusement, le gars d'Almelé, Kevin Adams aussi, apparemment.
Ah putain, oui, c'est
ouais,
vrai.
Ils ont fait ce truc.
Ah oui, c'est... à l'époque. Putain.
Ouais, à l'époque. Ouais, bah, à l'époque,
enfin, à l'époque il, c'était il y a 4 ans.
Ouais, 4-5 ans, hein, je pense. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que va savoir où elle avait entendu. Mais elle, elle a trouvé, elle rigolait, elle pensait que c'était une blague. Elle pensait que ça allait me faire rire. Mmh. Et donc justement, j'ai dû dire non, il faut pas dire ça comme ça. Et même, ils peuvent dire plein de bêtises. Par exemple, une fois, il y avait quelqu'un dans une chaise roulante, la chaise roulante un peu mécanique, mmh. électronique. Et les deux, mes deux aînés, ont dit « c'est génial ». Je voudrais pareil.
Et bien sûr.
Bien sûr, mais...
Avoue que nous aussi, on a envie,
ouais, de... vois, on a envie aussi de...
Dans la voiture qui avance tout seul, quoi.
Oui, et on comprend.
Bien sûr.
L'envie, mais juste, on ne veut pas qu'ils les disent trop fort non plus, tu vois. On ne veut pas non plus que la personne dans la chaise roulante l'entende. Donc voilà, donc... Et quand on disait au début que c'est difficile à ne pas trop parler de ses enfants, il y a tellement de blagues déjà... en place, qui sortent de leur bouche, que c'est, on a envie de l'utiliser. Aussi, l'autre exemple où j'ai dit dans mon spectacle, où ma fille a dit, on était dans un ascenseur avec une voisine, la voisine, elle pensait que c'était un homme, et donc elle a dit bonjour monsieur, et quand j'ai dit non, c'est pas un monsieur, c'est une madame, elle pensait que je faisais une blague. Elle pensait, pour elle, cette personne était tellement évidente que c'était un homme, qu'elle pensait que je blaguais. Donc, c'est qui ajoute encore plus une couche.
Donc, comment ça s'est passé dans l'ascenseur? Elle dit bonjour.
Monsieur.
Bonjour, monsieur. Et toi, tu lui dis, ah, mais non, c'est pas monsieur, c'est madame. Et en fait, elle rit, c'est ça?
Ouais, elle rigole. Mais c'est affreux. C'est vraiment, tu juste, t'as envie de sortir de cet ascenseur hyper vite, quoi. Et donc, ouais, mais c'est génial aussi. C'est-à-dire que c'est tellement touchant.
Bien sûr.
Et voilà, donc. J'en parle sur scène, je raconte ces genres d'anecdotes sur scène, effectivement.
Ouais. Et d'un autre côté, c'est tellement... quand tu dis touchant, pour moi, il y a aussi un côté... Bah, il n'y a pas de filtres sociaux, en fait. Ouais. C'est juste...
Un côté naïf, quoi.
Voilà.
Oui.
C'est hyper... Enfin, c'est un truc dont tu t'inspires, toi, en tant qu'artiste, de cette fraîcheur, en fait, tu vois. Donc...
Oui, moi, on aimerait quelque part tous être comme ça. C'est un peu un enfant, c'est un peu un adulte bourré, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. C'est ce genre d'état d'esprit où t'es libre des pensées des autres. Bien sûr, de moins en moins, en fait, je le vois que ma fille qui va avoir bientôt 10 ans. Bah maintenant, ouais. tu sens que le début de l'adolescence commence à s'infiltrer dans sa façon de penser, malheureusement, ouais, c'est normal, mais il y a un côté, malheureusement, elle peut commencer à avoir des complexes ou de trop s'inquiéter de ce qu'ils pensent les autres. Mmh. Et on aimerait quand même protéger nos enfants par rapport à tout ça, mais forcément, ça va arriver. Donc oui, c'est inspirant de voir les enfants avec ce côté candide, côté naïf, est capable de dire ce genre de choses, c'est magnifique.
Et c'est dur, je trouve, tu vois, de voir tes enfants grandir, et comme tu dis, tu vois, de l'avoir peut-être avec, qui commence à avoir des complexes, etc. Et d'un autre côté, d'accepter aussi que, bah, il faut aussi qu'ils passent par là pour se construire, quoi.
Oui. Bon, bien sûr, je pense que c'est toujours... Notre rôle, c'est de les protéger, et donc, du coup, forcément, quand on voit qu'ils souffrent, pour une raison ou une autre, et aussi parce qu'on a traversé cette période aussi, donc on sait que c'est pénible, on sait que ça peut durer longtemps, ça peut aussi rester très longtemps, et c'est difficile de savoir exactement ce qu'il faut dire. Par exemple, mes deux aînés, ils vont voir des thérapeutes en ce moment, pour des raisons différentes.
C'est cool.
Et c'est cool, justement, et c'est quelque chose... moi, j'allais dire que mes parents n'ont pas fait ça, mais moi je suis allé. Ils étaient assez ouverts aussi, mes parents, par rapport à la thérapie. Bon, juif new-yorkais, c'est pas surprenant. Mais je trouve c'est important. Je trouve, par exemple, la thérapeute que ma fille voit, on est allé hier pour la deuxième fois, et je vois que ma fille l'adore. C'est-à-dire qu'elle est sortie avec un sourire, une espèce de soulagement, je sais pas. C'était comme si c'était une espèce de copine à qui elle pouvait vraiment confier. Et je pense que c'est important d'avoir un terrain neutre qui est pas un parent, qui peut être fier ou déçu, qui est pas un ami, qui est pas même un cousin. Je pense que c'est vraiment, c'est cool. Et j'ai fait pour la première année aussi pour mon fils. On est allé voir quelqu'un régulièrement. En fait, on a vu un thérapeute une fois par an avec les deux aînés. Mais c'était exceptionnel. C'était genre en moment de crise.
Ouais.
On est allé voir une thérapeute qui était très bien. Mais c'est une grande séance de genre 2h30 où la thérapeute parle avec nous, puis avec l'enfant, puis avec nous trois. Et donc, du coup, c'était très bien. Mais c'est la première année où mon fils a vu quelqu'un plutôt régulier, une fois, deux fois par mois, en gros. Et parce qu'il passe une phase un peu difficile, il entrait en CP cette année. Et donc, c'est pas évident de passer de l'école maternelle au CP. Et au début de l'année, c'était pas évident. Et maintenant, grâce à un peu de plein de choses, mais partiellement grâce au fait d'avoir un thérapeute, il est sorti, mais un champion. Vraiment, ça va très bien maintenant. Et c'est une phase. Et je pense qu'il a appris que cette option existe. Je pense que c'est ça qui est important avec un thérapeute. Pas seulement les séances, mais juste de montrer que cette idée de pouvoir payer quelqu'un qui peut nous aider pendant un moment difficile, ça existe. Je pense que c'est assez important. Et c'est une personne qui est neutre et qui est fait pour ça. Ça, je trouve que c'est important de montrer.
Et c'est cool d'amener ta fille de 10 ans en thérapie. T'es peut-être aussi en train, tu vois, de lui filer des outils pour et des armes pour l'adolescence, quoi. Tu vois, c'est un truc que tu redoutes, ça, la période
d'adolescence. Ouais, je pense que on redoute un peu tous ce genre de choses parce qu'on sait pas, en fait. J'entends plein de parents à dire que ouais, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Donc forcément, je vois que malgré tout, on est dans la cour de petits, quoi, malgré tout. Et les problèmes qu'ils peuvent avoir restent petits problèmes, quoi. Et donc, si après, entre les côtés amoureux, le côté drogue, sortir des mecs, de la sexualité, tout ça, oh, ah oui, c'est tout un autre monde, quoi. Et donc, ça fait peur, oui. Et donc, oui, j'essaie de la préparer le plus possible. J'ai pas forcément pensé que cette thérapeute-là était en préparation pour l'adolescence, mais et je pense que c'est tellement, on peut jamais savoir d'où va venir le danger. Et donc je pense que aussi il faut être à la fois préparé mais aussi à la fois détendu, parce que si tu stresses sur un tel aspect de la vie de ton enfant, l'enfant va forcément sentir ce stress et peut-être rebeller contre ça. Donc tu veux pas ça non plus, donc c'est difficile à savoir comment préparer ce genre de choses. Donc je pense que la clé, c'est d'être à la fois préparé et aussi détendu. Donc voilà, on va savoir comment faire ça. Mais je pense que, ouais, on est allé voir une thérapeute là parce qu'il y a un certain sujet sur lequel elle voulait travailler et on voulait qu'elle travaille en tant que famille. Et donc voilà, pour l'instant, ça s'est très bien passé. On va voir, quoi, on va voir, mais...
Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa? Un conseil ou...
Je pense pas, parce qu'en fait, les conseils que j'ai reçus, moi, c'est un peu des conseils un peu à la con, genre profite tant que tu peux, mais comment tu veux... En fait, parce que c'est tellement quelque chose que tu connais pas. C'est comme dire à quelqu'un qui n'a pas de jambes, à quelqu'un qui a des jambes, profite de marcher, tu peux courir. Oui, mais c'est tellement normal, et donc c'est la même chose. Je ne veux pas dire qu'un papa a perdu ses jambes, mais...
Un peu.
Non, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu... oui, je pense peut-être le fait d'être plus détendu, même si je pense que j'étais assez détendu, mais... j'ai reçu quand même des conseils de gens, tu vois, foirer. Donc, choisis bien tes foirages, quoi, tu vois. Je ne sais pas si c'est un mot, mais...
c'est un mot, foirage.
Ok. En gros, accepter que tu vas faire des erreurs. Je pense que c'est ça qui est important. Bien sûr, évidemment, c'est évident de faire son mieux, bien sûr, mais d'aussi accepter que tu peux pas tout contrôler et que forcément tu vas faire des erreurs. Et c'est pas le manque d'erreurs qui compte, mais plutôt de bien vivre ces erreurs-là et essayer d'apprendre basé sur ces erreurs-là. Si tu fais une erreur, ok, de dire ok, comment je peux faire autrement par la suite ou avec les autres enfants. Mais en même temps, chaque enfant est tellement différent. Aussi, c'est aussi quelque chose que je vois maintenant en étant papa de 3. Mmh. Chaque enfant est vraiment différent et qui ont des besoins différents que c'est difficile à planifier. Mais même quand tu as l'expérience avec un enfant, tu ne peux pas trop préparer pour le deuxième et encore moins pour le troisième parce que il faut s'adapter aussi. Donc, tu dois en savoir aussi, mais oui. Avec deux déjà tout de suite.
Avec deux, ça suffit.
Ils sont pas pareils. Quoi.
Ouais, ça suffit pour qu'ils soient obligés de toute façon de se caler l'un par rapport à l'autre. Quoi, ouais. Parce que c'est obligé.
Et tu vois à quel point le rôle dans la famille joue. Et en fait, tu vois avec mon deuxième qui est celui de milieu. Qui n'est pas le seul garçon. En fait, quelque part, j'avais envie d'avoir une fille en troisième, juste pour que chacun a son rôle.
Oui.
Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Bon, bien sûr, maintenant, sans regret, je suis très content d'avoir deux garçons. Mais quelque part, je sens que le deuxième, on souffre de temps en temps de ça. C'est-à-dire qu'il n'est ni l'aîné, ni le petit, ni le seul garçon. Donc, c'est quoi son rôle et le fait d'avoir vu un thérapeute cette année. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles il travaillait, et notamment ça. Et je ne me souviens pas pourquoi. Ouais, tout ça pour dire que non seulement chaque enfant est différent, mais le rôle qu'il joue au sein de la famille est différent. Donc forcément, il y a tellement d'aspects qu'il joue dedans que c'est difficile à savoir ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de règle, quoi. Il faut être assez souple de pouvoir écouter les besoins de chaque enfant.
Je trouve aussi que c'est un truc auquel on ne pense pas assez, tu vois, de se dire, ok, tu vas avoir peut-être deux ou trois enfants, tu vois, peut-être même plus, et ils vont devoir réussir à se positionner les uns par rapport aux autres. Et toi, tu as un rôle en tant que parent aussi pour venir... je sais pas, faire attention à ce que tu aux choses que tu aux messages que tu leur envoies, quoi.
Ouais.
C'est terrible.
Oui, en plus s'il y a des gens différents.
Ouais.
Entre filles et garçons, tu veux pas non plus que entrer dans le cliché qu'une fille a besoin plus de tendresse ou ce genre de conneries là. Mais en même temps, si ta fille te demande plus de tendresse, il faut le donner.
Bien sûr.
Donc oui, c'est il faut être souple, quoi.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes trois enfants s'ils écoutent ce podcast dans 10 ans?
J'ai essayé. J'ai fait mon mieux. Hein. J'ai fait mon max. Je pense vraiment, je dis ça en blaguant, mais c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas parfait. Je les adore et j'ai fait vraiment un... Mon max en pensant le faire le mieux pour eux. Et voilà, c'est. Je sais pas. J'espère qu'ils vont pas écouter ce podcast. non,
j'espère qu'ils vont pas écouter ce podcast
si,
en 10 ans.
Si, pourquoi pas.
Ça ferait une super discussion.
Ouais, je pense. Je pense qu'ils vont adorer même. En étant peut-être honte aussi un peu, mais de moi. Mais non, je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a une grande partie qui a pardonné les défauts de mon père. Je ne sais pas si je l'ai dit aussi il y a 5 ans, mais le fait d'être dans le siège de conducteur, tout de suite, tu te mets à la place de celui qui était le conducteur avant. Tu dis, ah, en fait, c'est pas facile. Et donc, j'ai quelques amis qui sont pas papa et parfois je les entends se plaindre toujours de leurs parents et je me suis rendu compte que depuis que je suis papa je me plains beaucoup moins sur mes parents parce que le fait forcément d'être à leur place c'est « Ah oui, en fait, c'était pas aussi mauvais que ça. » Et le petit défaut, bien sûr, chacun a ses propres parents. Peut-être tes parents étaient nullissimes. Mmh. Mais je pense qu'on pardonne beaucoup plus ces défauts-là. Et je pense que si mon père me disait aujourd'hui j'ai fait mon max, même s'il n'a pas changé de couche, voilà, il était fort ailleurs, quoi. Et je ne veux pas non plus rester dans le côté rancunier auprès d'eux et vraiment, objectivement, il était vraiment quand même super. Donc tout ça pour dire que j'espère que mes enfants, s'ils sont parents ou pas, vont voir ce truc que malgré tout ce que j'aurais pu faire de mauvais, que les intentions étaient bien, étaient bonnes.
Bonnes.
Ah, pardon, je suis fatigué.
Ah ben non, tu te démerdes super bien. T'as amélioré ton français, non, depuis 5 ans?
Je sens pas. Ah non, ouais, j'ai l'impression que j'ai plafonné. J'ai vraiment l'impression que je parle comme ça depuis 8 ans. Et je pense justement, je voudrais bien quand même passer le cap et améliorer mon français. L'accent, c'est une chose, mais je vois que j'ai fait de fautes, je vois que...
Oh, t'en fais pas beaucoup, là, sur une heure de discussion, de blabla, franchement,
Ok, tant mieux.
Franchement, c'est bien, hein.
Ok, tant mieux.
Tu vois, tu fais... Souvent, il y a des erreurs sur les pronoms, enfin, tu vois, le genre, etc., t'en fais quasiment pas.
Ah, ok.
C'est trop bien.
Non, mais intention, c'est un mot, par exemple, que j'avais employé deux fois dans le mois, et donc mémoriser si c'est une intention ou un intention...
Mais même moi, je suis pas sûr.
Mon cerveau, justement, je vois qu'à parfois il dit je m'en fous. En fait, je m'en fous.
Oui, puis c'est pas très grave. On comprend ce que tu dis. En plus. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Seb, c'était super.
Ah, merci à toi.
On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens dans les notes, tu sais, de l'épisode.
Okay.
Et puis rendez-vous à la rentrée donc pour venir te voir au Palais des Glaces à Paris.
Ouais.
Tu vas faire une tournée aussi après.
J'ai des dates de tournée déjà. Et okay. J'aurai encore plus. À la rentrée.
C'est sur ton site, j'imagine, on peut retrouver.
Sur mon site, sebmarx.com, je pense que c'est le mieux. Mm. Là, j'ai réuni toutes mes dates à Paris et tournée. Sinon, bien sûr, Instagram, Facebook, YouTube, même TikTok.
T'es sur TikTok?
Je suis sur TikTok. Je pense que je suis le mec le plus vieux.
Non.
Être sur TikTok, mais.
Oui, plus vieux, t'inquiète.
Mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont moins de 15 ans qui sont sur TikTok. J'ai plusieurs personnes qui sont venues à mon spectacle. Qui ont trentaine passée,
qui t'ont découvert sur TikTok.
Qui m'ont découvert sur TikTok.
Oh là là. Mais oui, il y a plein de gens sur TikTok maintenant.
Ouais, maintenant ouais.
C'est bien joué d'y être.
Ouais,
merci beaucoup, Seb.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.